Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Dans quelques semaines, le 3 juillet, le MEDEF, la plus grande organisation patronale, changera de président. Deux hommes sont encore en lice pour succéder à Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo. Pierre Gattaz, l'actuel patron des patrons, a lui donné sa dernière conférence de presse hier.
Je crois que le prochain président est face à une situation inédite où un certain nombre de réformes positives ont été faites sous l'impulsion du MEDEF, pour un certain nombre d'entre elles sur le plan économique, et où le positionnement de notre mouvement face à un président pro-business n'est pas forcément évident. Je crois qu'il est de notre responsabilité, vous voyez, nous, chez l'entreprise, d'accompagner les réformes quand elles sont positives, quand elles vont dans le bon sens, comme il était de notre responsabilité, voilà quelques années, de nous opposer fortement à des mesures qui amenaient le pays dans le mur.
Il est rare d'entendre les représentants du patronat dresser autant de lauriers à l'exécutif. Dans un contexte social tendu, l'occasion de se poser la question, le pouvoir est-il trop proche du patronat? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en parler en ligne avec nous, Daniel Fraboulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Paris-Cité de Paris 13. Spécialiste d'histoire économique et sociale de la France contemporaine, oui, Paris 13, hein, je me suis un petit peu trompé dans les chiffres latins. Vous avez publié une tribune dans les colonnes du journal Le Monde le 2 juin dernier intitulée « Les relations du patronat avec l'État et la société varient selon la conjoncture politique et les rapports de force ». Également en studio avec nous Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, auteur du livre « La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux ». Et c'est paru aux éditions La Découverte. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. D'abord, Daniel Fraboulet, quand on parle du patronat ou même des représentants du patronat, de qui parle-t-on exactement ?
Écoutez, on parle toujours du patronat. En fait, il faudrait plutôt parler des patronats parce que le patronat a toujours été hétérogène et donc... Il trouve des intérêts communs, mais c'est pas forcément facile de construire cette cohésion patronale. Et ça, c'est qui n'est pas récent. Lorsque les organisations patronales sont nées au cours du 19e et se sont confirmées autour du 20e, ça a toujours été le cas.
Guillaume Duval.
Oui, il y a des patronats en effet, mais il y a quand même aussi un patronat et qui a su se structurer, effectivement devenir très très fort, en tout cas très influent politiquement, comme on le voit, comme Pierre Gattaz le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a bien une politique du patronat qui s'impose aujourd'hui aux politiques. Alors c'est lié notamment à une spécificité française qui est que le grand patronat, le patronat des grandes entreprises, a toujours été jusqu'ici, en tout cas, très lié au patronat aux dirigeants de l'administration à travers l'ENA. Donc c'est vrai qu'on est un des seuls pays développés au monde où on devient patron d'une grande entreprise parce qu'on a été dans le cabinet de tel ou tel ministre précédemment.
Enfin, vous le dites vous-même, patronat de grandes entreprises, parce que les patrons, c'est aussi les patrons des petites PME qui n'ont pas grand-chose à voir avec celui de Total, par exemple.
Oui, bien sûr, mais les gens qui donnent le ton à la fois au sein du patronat et au niveau politique sont évidemment les patrons des grandes entreprises, et c'est eux qui font la politique du gouvernement. Oui.
Daniel Fraboulet, vous partagez cette analyse sur le fait que les représentants du patronat sont plutôt dominés par les grands patrons ?
Oui et non. Enfin oui. Si, oui, bien sûr, mais si on retrace effectivement l'histoire de ces organisations patronales et de leurs dirigeants, on s'aperçoit effectivement que il y a un recrutement dans les grandes écoles, un recrutement similaire, si vous voulez, et par la famille, entre les hommes politiques et les dirigeants de l'économie. Mais en même temps, il y a toute une évolution. Et c'est vrai, ces dirigeants patronaux qui appartenaient à de très grandes entreprises, il est arrivé à plusieurs reprises qu'ils soient contestés par les dirigeants des petites et moyennes qui ne se sentaient pas totalement représentés. C'est arrivé en 1936, par exemple, lorsque les accords Matignon ont été signés par les dirigeants de l'UMM et de la CGPF, eh bien, ils ont dû faire face à une fronde des petits patrons qui n'étaient pas d'accord avec la signature d'un certain nombre d'accords. Et donc, c'est arrivé. Alors, il y a eu, de la part des organisations patronales, une volonté évidemment de laisser plus de place aux représentants des PME, et ça aboutit même après la Seconde Guerre mondiale à la création de la CGPME. Et la CGPME, elle participe bien sûr au MEDEF, elle participe aussi à l'UMM, aux grandes autres organisations. Donc c'est un peu complexe, un peu compliqué, mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde même les candidats là au MEDEF, Alexandre Sobo, Geoffroy Roux de Bézieux, on s'aperçoit effectivement qu'ils sont, ils sont passés par les grandes écoles, notamment par l'école polytechnique ou par l'ESSEC. Mais dans les candidats qui sont là, ils ne sont pas énarques. Mais voilà, ça peut arriver encore.
Hein. Guillaume Duval, les valeurs qui rassemblent ce que vous appelez, vous, le patronat, ce sont lesquelles? Qu'est-ce qui les rassemble aujourd'hui, tous ces patrons?
Oh, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose, si vous voulez. Si, hein. Un patron, il a toujours comme intérêt immédiat que le travail coûte moins cher, que le travail soit plus flexible, qu'il puisse licencier et embaucher facilement, et que tout ça lui coûte moins cher. Le problème qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'on écoute les patrons, donc c'est toujours ce que demandent les organisations patronales au cours du temps, sous des différentes formes, etc. Le problème, c'est que quand on écoute les patrons, en fait, on fait le malheur des entreprises et du patronat. Parce que si on suit la politique que ces patrons qui ont le nez sur le guidon demandent, on aboutit au fait qu'on a une demande intérieure qui est trop faible et qu'on a une main d'œuvre qui est en mauvais état, en mauvais savoir-faire, parce qu'on dépense pas assez pour l'éduquer, la soigner, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on fait ce que demande le patronat, on s'en sort plus mal sur le plan économique, en fait. Le paradoxe de cette affaire, c'est que l'économie capitaliste a bien marché que dans les moments où on n'a pas écouté le patronat, où on a fait des dépenses publiques importantes, où on a mis en place la sécurité sociale parce qu'il y avait transitoirement un rapport de force qui était plus favorable aux salariés, des moments où on a fait des dépenses publiques importantes pour l'éducation, pour la santé, etc., etc. C'est à ces moments-là que l'économie marche bien. Quand on écoute le patronat, l'économie marche mal, c'est toujours systématique. Si vous voulez, Keynes, dans les années 30, c'était pas du tout un révolutionnaire, c'était pas du tout un communiste ou un socialiste. C'était un grand bourgeois anglais, boursicoteur en diable. Ce qu'il voulait, en ayant un capitalisme plus organisé, plus de dépenses publiques, plus de négociations sociales, etc., c'était d'avoir un capitalisme qui marche mieux pour qu'il puisse se remettre à boursicoter. Mais ça, les représentants du patronat l'ont jamais compris. Et aujourd'hui encore, tout ce que demande le patronat, c'est du travail moins cher et plus flexible.
Avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un extrait de deux déclarations d'Emmanuel Macron après et avant son accession à l'Élysée, des déclarations qui avaient beaucoup fait parler d'elle.
Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et c'est pour ça que, aussi vrai que je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité.
Vous comptez sur leur bonne volonté.
Je crois à cela.
J'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaire. Et en effet c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse, et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose, si nous n'encourageons pas nos jeunes à aller le plus loin et le plus haut possible.
Daniel Fraboulet, c'est si symptomatique ce qu'on vient d'entendre de la part du président français, d'une pensée pro-business, comme le disait Pierre Gattaz tout à l'heure.
Certainement, c'est symptomatique d'une pensée pro-business, c'est évident. C'est évident. Et c'est vrai que c'est d'une certaine manière contre-productif, dans la mesure où l'ensemble des salariés ont des revenus qui stagnent ou n'ont pas d'emploi, ou n'ont même pas d'emploi, il est évident qu'ils ne vont pas dépenser et donc le marché de la consommation va se restreindre. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est complètement ambigu, mais je pense que le patronat est aussi, enfin, le patronat. Les patrons sont aussi ambigus sur tous ces thèmes parce que ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Ils ont des intérêts communs parfois, mais ils n'ont pas forcément des intérêts purement économiques similaires. Et dans l'histoire de patronale, alors on a pu voir une évolution. Les patrons au 19e, début du 20e siècle, ils étaient plutôt paternalistes parce qu'ils sentaient que de toute façon, il fallait bien prendre en charge, alors parfois contre leur gré, les accidents du travail, les accidents maladie, etc., etc. Et puis, progressivement, on évolue vers une mondialisation, un capitalisme qui semble beaucoup plus libéral et qui ne s'intéresse évidemment qu'au profit. Et donc, il y a eu des déplacements des entreprises vers des pays à moindre
coût. Je voudrais laisser Guillaume Duval réagir. Je vous vois prendre des notes.
Oui, non, je crois que le discours qu'a tenu Emmanuel Macron et que vous avez rendu là tout à l'heure, c'est pas du tout un discours pro-business, c'est un discours idéologique coupé des réalités du business, du marché et des entreprises. C'est le discours d'un haut fonctionnaire qui pense parler des entreprises et du marché, mais qui n'y connaît rien. Si vous voulez, une entreprise, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la cohésion au sein de cette entreprise. Si vous avez des trop grands écarts de salaire entre les patrons et les ouvriers, ça marchera pas. Si l'ouvrier a le sentiment que à chaque fois que l'entreprise gagne de l'argent, ça va dans la poche du patron parce que les stock options, parce que etc., etc., il se mobilise pas. Les entreprises qui marchent, c'est les entreprises allemandes, c'est des entreprises où il y a des écarts de salaire relativement limités, où il y a du pouvoir pour les salariés.
Il a reçu il y a quelques semaines, où les choses comme ça marchent.
Les entreprises, enfin le modèle du milliardaire et le modèle du premier de cordée, ça n'existe pas.
Quand il a reçu le patron de Facebook, par exemple, à l'Élysée, les représentants des grandes entreprises du numérique, c'est des entreprises où il y a d'énormes écarts salariaux, là aussi, Amazon ou d'autres.
Oui, enfin, les salariés d'Amazon, de Google, etc., ils sont bien payés, hein. C'est pas eux qui...
Ça dépend à quel niveau pour Amazon.
Pour Amazon, c'est moins vrai, mais, les salariés de la high-tech, ils sont bien payés et ça coûte très cher de vivre dans la Silicon Valley et ils ont tous d'assez bons salaires, mais c'est vrai qu'il y a des écarts. Je crois qu'une société, une économie qui fonctionne bien, c'est une économie où il y a de la cohésion et où il y a peu d'inégalités.
Est-ce que ce discours du président français est influencé par le MEDEF ou ce qu'on appelle le patronat ou les patrons ?
Si vous voulez, le patronat en France, c'est un patronat qui est très faible, qui a du mal à regrouper et à représenter réellement les entreprises. Il est tellement faible qu'il est incapable de négocier en réalité avec des syndicats parce qu'il est incapable de faire des concessions réelles et de les faire accepter ensuite par les entreprises qui l'ont mandaté pour négocier. Donc c'est pour ça que le patronat français a renoncé à négocier avec les salariés, avec les syndicats de salariés, et qu'il se concentre uniquement sur faire du lobbying auprès du politique qui est très proche du patronat, puisque à travers la haute administration en particulier, c'est les mêmes gens. Et c'est la même origine sociale, et c'est les mêmes milieux sociaux.
Donc c'est plus efficace
pour lui que de chercher à négocier avec les salariés. C'est effectivement, et il obtient ce qu'il veut.
Daniel Fraboulet, sur cette question très précise, sur le fait que le syndicat soit le MEDEF, pardon, et le patronat français, de manière générale, soit devenu une forme de lobby plus qu'un outil de négociation.
C'est évident d'abord que ça a toujours été un lobby, ça c'est absolument évident. Ils ont toujours souhaité le faire d'ailleurs quand ils se sont constitués, c'était pour faire notamment pour les grandes unions ou le CNPF. La CGPF, c'était pour faire pression sur les gouvernements.
Le Conseil général du patronat français, l'ancêtre du MEDEF.
L'ancêtre du MEDEF, c'était bien sûr, parce qu'il fallait être très bien introduit dans les couloirs du Parlement pour connaître quels étaient les projets de loi qui étaient en cours et pouvoir ensuite agir. Après, une fois que, si la loi a été votée malgré le fait qu'ils se soient opposés, qu'ils aient essayé d'intervenir, si elle était quand même votée, après, il y avait évidemment une volonté de faire en sorte que la réglementation s'adapte.
C'est quoi la nouveauté alors avec ce que nous dit Emmanuel Macron, quand Pierre Gattaz dit il faut encourager les réformes en cours parce qu'elles sont bonnes, en tout cas lui les juge bonnes, comme on a combattu dans le passé, il y a quelques années, des réformes qui menaient, disait-il, le pays dans le mur. C'est quoi la différence entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs? Après tout, Nicolas Sarkozy, en tant que président, s'était rendu à l'université d'été du MEDEF pour faire un discours. François Hollande aussi était allé à l'université d'été du MEDEF. C'est pas le premier, Emmanuel Macron, à avoir cette proximité.
Non, c'est pas le premier. Le problème actuel, je pense que c'est ce que voulait dire aussi Monsieur Duval. Le problème actuel, c'est peut-être un problème de représentativité, parce que là, en 2017, ils ont tenté de voir ce que représentait véritablement le MEDEF. Est-ce qu'ils reprendront vraiment les patrons ou une minorité de patrons? Et on a la même chose dans les syndicats de salariés, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'adhérents, que ce soit chez les salariés ou chez les patrons. Et donc c'est compliqué quand on a une volonté éventuellement de s'asseoir à une même table pour négocier. Hein. Que les gens qui sont là soient représentatifs.
Guillaume
Et ça, c'est un vrai souci. Alors, oui.
Je vous laisse la parole à Guillaume Duval, 2 minutes.
Oui, je crois que effectivement c'est le vrai sujet, c'est-à-dire que il y a eu un consensus droite-gauche assez fort à partir des années 2000, du début des années 2000, pour dire il faut qu'on devienne plus social-démocrate en France et qu'il y ait plus de négociations entre le patronat et les syndicats. Donc il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises, notamment une loi Larcher, c'est la droite qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là en 2007 pour dire avant que l'État fasse des lois sur le travail, il faut laisser les syndicats et le patronat à négocier, etc. La nouveauté de Macron, c'est qu'il enterre tout ça. C'est que il revient à une politique où c'est l'État qui décide tout seul, éventuellement il consulte, etc. Mais il n'y a plus de négociation. C'est l'État qui décide et qui fait les lois sur le travail et pour les entreprises.
C'est plutôt une manière de fonctionner qui est associée à la gauche, ça, à l'extrême gauche même.
Et c'est une manière très autoritaire, verticale, jacobine, etc. C'est la tradition de l'État français. Mais le patronat est très content parce que effectivement, il le fait dans le sens que souhaitent les grands patrons, parce que c'est le même milieu social, c'est l'ENA, c'est l'inspection des finances, c'est les mêmes gens. Donc Macron fait ce que le patronat lui demande et il n'y a plus besoin de négocier avec les syndicats. Ils sont contents. Mais je pense que du point de vue de l'intérêt de l'économie française, de son efficacité, c'est très mauvais.
Daniel Fraboulet, sur la question des syndicats et cette négociation qui n'a plus lieu aujourd'hui entre les patrons, le patronat, le MEDEF et les syndicats des salariés, que ce soit la CGT, la CFDT ou d'autres, ce lien est rompu complètement aujourd'hui?
Je sais pas si on peut parler de totale rupture, mais il y a eu un affaiblissement. Il y a eu un affaiblissement du paritarisme, du fait que je vous dis, les salariés se syndiquent de moins en moins, et je pense qu'effectivement, il y a un problème de représentativité. Or, quand vous avez des représentants qui ne représentent pas réellement l'ensemble des salariés, les négociations, de toute façon, deviennent difficiles et enfin, compliquées. Alors, moi, je sais pas, je suis historienne, donc c'est compliqué pour moi d'avoir suffisamment de recul pour analyser la situation aujourd'hui, parce que on ne connaît pas forcément tous les paramètres. Donc je peux vous dire que ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une évolution qui n'est pas dans le sens du paritarisme. Mais bon, peut-être me trompais-je.
Guillaume Duval, comment pensez-vous que les choses vont évoluer entre le pouvoir des macronistes actuellement, l'Élysée, l'exécutif, le gouvernement et les grands patrons?
Écoutez, je pense que les grands patrons vont obtenir ce qu'ils veulent, mais je ne pense pas qu'ils vont être aidés à la fin, à la fois sur le plan économique de la demande, etc., mais aussi par rapport aux attentes des Français, si vous voulez. Les Français c'est une des sociétés qui a le plus changé dans les 40 dernières années, en termes en particulier de niveau d'éducation. Donc les Français attendaient, notamment de Macron, et c'est ce qu'il avait promis au départ, plus de participation à tous les niveaux, au niveau politique, mais aussi au niveau de l'entreprise, et ça, ils ne l'auront pas, manifestement, puisque on va renforcer le pouvoir féodal des patrons dans les entreprises.
Merci beaucoup à tous les deux. Daniel Fraboulet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Paris, cité de Paris 13. Et Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. Hélène Avril à la réalisation.